Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents. Une zone mathématique.
69, 64, 63, 11 fois 14.
114.
154.
Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, on est ensemble jusqu'à minuit. L'after foot commence maintenant avec Kevin Diaz, avec qui on a vécu le match. On rappelle que Lens a battu Brest 3-1 et évidemment Lionel Charbonnier qui revient. Comment
salut
ça va, monsieur?
Tous.
En pleine forme?
Bah ouais, écoute, c'était un beau match, hein.
Un match correct.
Et oui,
ouais, on a vu pas mal pour un vendredi. On est vendredi.
C'est
hein,
vrai qu'on a vu des vendredis plus difficiles.
tu vas voir, Karine. Au fil de l'année, il y a des vendredis.
Ah non, mais je suis au courant, mon cher Lionel. J'ai eu des vendredis compliqués. J'ai eu des samedis compliqués aussi. C'est le bonheur de la Ligue 1. Tu sais jamais si tu vas tomber sur une pépite ou sur.
C'est plutôt un beau match. Moi, j'ai. Il y avait du.
Non, mais le problème du vendredi, c'est avec les Coupes d'Europe, en fait.
Et oui.
Comme les équipes jouent la Coupe d'Europe, ne jouent jamais le vendredi.
Donc, parfois, on nous propose évidemment du 3e, 4e couteau.
Tu peux avoir une affiche un peu compliquée.
Eh ben en tout cas ce soir, on s'est régalé. On rappelle que Brest avait ouvert le score grâce à Mama Baldé à la 24e. Thauvin égalise à la 60e. Guy Lavogué à la 78e minute a donné l'avantage à Lens. Et puis c'est Thomasson qui a scellé la soirée lensoise avec ce 3e but. Lens qui va bien, 2 victoires en 3 journées. Malheureusement pour les Brestois, il n'y a qu'un seul petit point. On vous attend au 32-16, supporter lensois, supporter brestois. Mais tout de suite, on va partir à New York parce que c'est très important, Eric Salio. Manarino a égalisé 2-7 partout face à Shelton qui est blessé.
Oui, il est blessé à l'épaule et au moment où on se parle, je pense qu'il hésite à reprendre la partie. On a vu son père, qui est son coach, lui dire arrête, ça ne sert plus à rien. Il était au bord des larmes là depuis lors de ce changement de côté, mais pour l'instant il n'y a pas d'abandon. Hein, attention, hein. J'anticipe peut-être un peu, mais c'est vrai qu'il joue plus comme avant. Il fait de la figuration et Manarino a été très solide dans sa tête pour recoller à 2-7 partout, donc en remportant son jeu de service à sa 6e balle de 7. Donc là, Adrian Manarino a vraiment une chance énorme d'accéder au 8e de finale de l'US Open parce que Shelton est clairement diminué. J'attends des informations et pour l'instant, il n'y a pas d'abandon.
Effectivement, nous, on vient de voir hein, les images du papa qui dit arrête à son fils. Donc, on suivra ça avec toi. Il y a une autre bonne nouvelle. C'est un Français. Il vient de Gassin, dans le Var, et il s'est qualifié. Mais là, il a une montagne face à lui.
Oui. Arthur Rinderknecht qui s'est qualifié tout à l'heure face à Benjamin Bonzi en 4 manches. C'est la première fois qu'il accède. Et c'est l'abandon de Ben Shelton. Voilà, c'est officiel. Puisque Manarino était parti au vestiaire, il a attendu le retour du Français. Mais donc, il ne peut pas continuer. C'est une énorme désillusion pour Ben Shelton qui avait remporté le Masters 1000 de Toronto, qui était tête de série 6 et qui donc doit jeter l'éponge. Manarino, 2e Français en 8e de finale de cette US Open. C'est la fête au village et il jouera dans 2 jours le Tchèque Jiří Lehečka.
On est heureux pour le Français, mais on voit, hein, c'est très dur. Ben Shelton qui a la tête dans sa serviette, lui qui joue à domicile, hein, l'Américain. C'est des images évidemment très tristes et il sort sous l'ovation de son public.
Il voulait gagner l'US Open,
car oui.
Il avait annoncé la couleur. Il s'en sentait capable, même s'il y a des cadors comme Sinner et Alcaraz, mais il avait de grosses ambitions. Donc là, pour lui, c'est le ciel qui tombe sur sa tête.
Malheureusement, donc, c'est
et
fini
bravo,
pour Shelton.
Et bravo, Manarino, 37 ans.
Eh oui. Manarino, donc on retrouvera au prochain tour. Merci beaucoup Eric Salion, en tout cas on est content. On a 2 Français qui continuent à l'US Open et ça ce sont des bonnes nouvelles. On va revenir au foot avec vous au 32-16. On rappelle qu'on parlera également de l'Olympico J-2 avant le match que tout le monde attend entre Lyon et Marseille. Et puis on aura également toutes les infos Mercato, le Mercato qui se termine lundi soir. Messieurs, on le débrief ce match entre Lens et Brest 3-1. Lens qui a été en difficulté quand même, Kevin, on le rappelle, mais il y a un scénario de match. Maieski qui dégoupille complètement, sorti pas maîtrisé. Il est expulsé à la 55e minute. Brest est réduit à 10. Et donc là, forcément, Lens qui est en situation favorable pour remporter cette rencontre et revenir.
Ouais, c'est bien résumé. C'est vrai que c'est un match où on a vu un tout début de match assez équilibré. Puis Lens a pris l'ascendant, mais s'est fait contrer sur des phases de transition rapide qui ont très très bien géré les Brestois, notamment avec Doumbia qui fait une passe magnifique et une belle finition de Mama Baldé. Et derrière, c'était plus compliqué. Et tout de suite, il y a eu ce carton rouge en deuxième mi-temps qui a complètement rééquilibré les débats avec ce penalty. Et derrière, ils ont un peu pris l'eau les Brestois.
Lionel, est-ce que c'est Majeski finalement qui est coupable de cette défaite?
Oui, oui.
C'est complet. À la 55e, donc est-ce qu'il est responsable de tout?
Ah bah oui, je pense. Moi, la débâcle jusque-là, les Brestois faisaient belle figure. Ils évoluent en contre et tout ça, mais comme le disait Kevin, comme tu l'as dit, je pense que pour moi, c'était un bon match, assez équilibré. Il y aurait eu un nul sur ce match-là. En tout cas, avant la sortie de Majewski, j'aurais pas crié au scandale, même s'il y a eu, et là-dessus, il va falloir se pencher côté Lensois, il y a eu quand même des maladresses. Ces Lensois ont vraiment besoin d'un vrai buteur, mais moi je pense que c'est lui quand même qui a plombé ce soir les Brestois.
On rappelle donc que Majewski est arrivé cet été pour remplacer Bizot. Malheureusement, ça avait été compliqué déjà lors de la défaite contre Toulouse 2-0. Et ce soir, il est vraiment fautif, le gardien polonais qui évoluait la saison passée à Monaco et qui est prêté par le club de la Principauté.
C'est surtout les conditions. Excuse-moi, Karine, je te coupe. Mais c'est surtout dans les conditions. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une sortie que le gardien se fasse expulser. De temps en temps, ça peut arriver. Une sortie dans les pieds, tout ça. Mais là, c'est vraiment une sortie, mais sur le côté où il n'a rien, complètement sur son côté gauche, il n'a vraiment pas besoin d'aller se jeter là-bas, faire cette faute-là. C'est vraiment une très mauvaise analyse de la situation et une mauvaise intervention, vraiment pas maîtrisée. C'est beaucoup d'erreurs en une seule erreur. Non, pour moi, il a plombé ses copains. D'ailleurs, on a vu Eric Roy. Ok, il est très frustré à la fin du match. Il y a cette défaite, mais pour moi la frustration, attention côté brestois, elle est plus profonde que ce résultat-là quand même.
Un seul point pris en trois journées pour Brest. Si on peut trouver une bonne nouvelle, on cherche, c'est que Couder a quand même fait une bonne entrée en jeu. Donc peut-être que finalement, le gardien de but, ça sera Couder et qui pourra faire des belles choses dans les cages. Ouais, j'essaye de trouver quelque chose de positif, ouais. Kevin.
C'est toujours pareil. En première mi-temps, on peut dire quand même que Majewski, à un moment, il fait quand même une sacrée parade.
Une belle claquette à droite.
Magnifique.
Il fait plutôt une bonne première mi-temps dans l'ensemble, d'ailleurs, avant complètement de sortir de son match. Comme en plus, c'est ce qu'on dit aux gardiens. Et ça sert absolument à rien d'aller à cet endroit-là de la surface. Si tu vois que t'es en retard, laisse passer l'attaquant. Parce que de toute façon, tu ne peux que faire faute, pénalty, en plus la carton rouge, parce qu'il est bien en retard. Mais c'est vrai que cette équipe de Brest, malheureusement, j'ai envie de leur dire, c'est presque le tonnerre qui te tombe sur la tête là, parce que t'es dans une phase où tu fais plutôt un bon premier match, bon même si ça va d'un côté à l'autre. Du coup, c'est un match spectaculaire.
Ouais, mais mentalement, ils arrivent à arracher le nul à 3-3
contre Lille. Ensuite, par contre, t'as deux résultats négatifs. Avec là, tu mènes 1-0. T'as ton gardien qui est déjà très critiqué à Monaco. Tu lui laisses la chance. Allez, disons qu'il y a moins d'exigence, il y a moins de pression à Brest. Mais non, ça le fait pas. Au troisième match, il prend un rouge qui derrière te coûte la victoire. T'as ton entraîneur qui, on le comprend, râle un petit peu sur le mercato, sur le niveau de budget. Alors on sait pas s'il râle sur le club ou s'il râle sur la situation de la Ligue 1 avec les droits télé. Mais en tout cas, ça sent pas bon à l'intérieur du club. Et finalement, t'es avec trois matchs, un seul point, t'es agacé après le match, tu vas voir l'arbitre, j'espère pour lui qu'il sera pas suspendu, mais oui, t'es quand même très,
lui
très agacé.
L'an dernier, hein.
Non, franchement, là, le début de saison des Brestois, il est, alors qu'ils ont encore quand même des bons joueurs.
Bien sûr.
Ils ont quand même perdu Lesmelou aussi cette semaine. Donc, ils prennent de plein fouet, là, la crise financière de la Ligue 1.
C'est le problème, Karine, de Majewski, justement, c'est que, pareil à ce qu'il faisait à Monaco, il alterne le très bon. Là, ouais, des fois, il a fait des arrêts extraordinaires, comme là, il a pu faire cet arrêt extraordinaire en première mi-temps. Et derrière, il va te faire une cagade. Et ça, c'est le pire, je dirais, pour les défenses, parce que un défenseur qui ne sait pas comment est son gardien, est-ce qu'il est dans un bon jour, est-ce qu'il n'est pas dans un bon jour, est-ce qu'il va nous faire une cagade, est-ce qu'il va nous sauver, on ne sait pas. Donc, ça fait douter la défense, et donc c'est un vrai problème. Et je pense que ce problème-là, Eric va vite, Eric Roy va vite le résoudre, parce que je pense que Couder maintenant doit être installé au moins pour 3-4 matchs titulaires.
On suivra ça de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que Couder sera là dans les buts face au Paris FC, vu l'expulsion de Majewski, supporter brestois. Au moins, on va voir effectivement la commission de discipline. Supporter brestois, on vous attend au 32-16. On va parler de Lens parce que ça va bien à Lens. 2 victoires en 3 journées. Lens qui est invaincu dans ce début de championnat. Et on accueille Daniel, supporter du Racing Club de Lens. Bonsoir Daniel.
Bonsoir. Bonsoir Karine, bonne saison à vous.
Merci beaucoup.
Bonsoir, bonsoir Daniel.
Bonsoir Kevin, également bonne saison. Et merci. Bonsoir Lionel Charbonnier, champion du monde.
Ah ben oui. Ça,
bonsoir Daniel.
Inoubliable 98 à jamais dans nos cœurs. Ah,
vous avez de la mémoire quand même.
Ah ben, enfin.
Ça commence bien.
Mais Lionel. Oui. Arrête Lionel. Ça se trouve, t'as entraîné Zidane à mettre sa tête sur cornet, hein, c'est grâce à toi. Ouais, et bref. Ouais.
Daniel, on te souhaite aussi une belle saison et pour l'instant, ouais, ça part bien pour le Lens version Pierre Sage. Vous êtes invaincu et il y a deux victoires de suite.
Ouais, je sais bien qu'on est invaincu. Enfin, il y a non, on est sur deux victoires. Ouais,
oui, non, pardon, vous avez eu la défaite, pardon, contre Lyon et deux victoires de suite. Pardon, je me suis emballé.
Et on a failli avoir la même chose que contre Lyon, c'est-à-dire un manque de finisseurs.
Ah oui.
C'est le seul bémol que je vais mettre dans ce match, parce qu'il faut que les supporters de Lens comprennent.
C'est exactement
cette équipe,
ça.
Si tu mets un mec qui met 10 buts dans une saison, qui est capable de te mettre les 10, 12 buts, elle n'est pas 7, 8, 9 ou 10e. Cette équipe, elle est 6e, 5e et par miracle 4e. Parce qu'il nous manque un finisseur. Le petit Ryan Fofana, il a 19 ans l'année dernière, il joue en N3. Malheureusement, on peut pas, je veux pas lui en vouloir, ce petit, il a 19 ans. On peut pas mettre le poids de l'attaque du Racing Club de Lens qui a fini depuis sa remontée en Ligue 1 une seule fois 8e, sinon c'était 7e, 2e et 7e et 8e. On peut pas lui mettre tout le poids de l'attaque de Lens sur le dos. Il faut absolument quelqu'un qui finisse. Avec les galettes que Tovin donne, avec l'entrée de Saoud Abdelhamid, que je connaissais absolument pas, qui nous fait un match, mais l'entrée qui fait incroyable. Le petit Bermond, c'est un petit jeune qui vient du centre de formation, il nous fait un match incroyable. Mais Ryan Fofana, ça serait un bon remplaçant pour finir les actions, qui rentre dans le jeu, dans le bain doucement de la Ligue 1. Parce que passer de la N3 à titulaire en Ligue 1, c'est
très dur, bien sûr.
Bravo Daniel, moi je suis entièrement à 300% d'accord avec toi. C'est-à-dire que en plus, le fait d'avoir un vrai finisseur, ça va libérer les autres joueurs qui vont marquer. Parce que aujourd'hui, le petit Fofana, ce que je te disais en off, Karine, il pense, il se dit, il faut pas que je la rate, parce qu'il y en a pas, il y a pas le buteur là qui libère les autres à côté. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu en tant qu'entraîneur, et ça fait mal à la tête, quoi, parce que mon président est venu me voir, il me dit ouais, mais t'as un mec à gauche qui marque 11 buts par à l'année, un mec à droite qui marque 11 buts à l'année, ça fait 22 buts, on est à la mi-saison, on devrait déjà être à 11 buts. Non, ça marche pas comme ça. Football, c'est pas ça. Le football, c'est que un buteur, il te libère. Le gardien, il te donne confiance, il t'arrête les buts, il te fait gagner des points. Ça, c'est très important. Je pense que de ce côté-là, Lens est bien loti. Je pense que le gardien va faire la maille. Par contre, il faut absolument se pencher sur un buteur qui va libérer les Fofana, les Tovin et compagnie, même les Thomasson, parce que Thomasson, on l'a vu rater un but que l'année dernière, il ne ratait pas. Par exemple, derrière, tout de suite en première mi-temps.
Quand le score est ouvert, derrière, elle le met.
Mais bien sûr. Et ça libère tout le monde. Et tu l'as dit dans tes propos tout au début, c'est exactement ça.
Mais Kevin, c'est prévu de toute façon qu'il y a un vrai attaquant qui arrive. Il y a Sima.
Il y a Stassin.
Attaquant polyvalent.
Ouais, Stassin, c'est trop cher.
Stassin, on rappelle qu'il appartient à Saint-Etienne, club de Ligue 2, et qui pourrait partir. Donc ça va arriver. Pierre Sage et le board savent qu'ils ont besoin d'un vrai avancement.
C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas d'argent à Lens.
Oui, voilà, mais ça fait deux ans quand même que Lens cherche un buteur. En gros, depuis le départ d'Openda, ensuite il y avait eu également Kalimuendo qui a marqué quelques buts. Mais de toute façon, Lens.
Il y avait eu Wailly aussi.
Oui, mais
il n'a pas réussi, mais il était.
Il n'a pas réussi, malheureusement.
Le truc avec Wailly, il réussit pas, il te met 12 buts dans ta saison. Le Wailly, quand même. Bon, il a écroqué énormément d'actions. Mais le truc avec, je ne comprends pas Joseph Gourlian, parce qu'avec Wailly, finalement, tu l'achètes 25. Tu revends 25. T'as pas
non, mais Wailly, les gars, Wailly, on l'a vu à Marseille. C'est pas qu'une question de footballeur. Est-ce que t'es capable d'attaquer? Est-ce que t'es capable de défendre? Est-ce que t'es capable de passer dans un projet collectif proposé par un entraîneur? Et moi, plutôt que de parler des individualités, j'ai envie de parler de Pierre Sage et ce qu'il met en place après peu de temps quand même. Hein, c'est sa première expérience hors de Lyon, où il était chez lui, il connaissait tout le monde. Il avait été choisi par John Textor, et puis en plus, c'était une opération presque maintien. j'ai envie de te dire tout ou rien, où ils étaient quasiment déjà relégués en Ligue 2 pour certains, et il était revenu de nulle part. Là par contre, il prend en charge un projet, il a pris un coup sur la tête l'année dernière en se faisant sortir de son club, et moi je trouve au contraire que ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes, t'as parlé du petit jeune que moi je découvre, mais il y a aussi Sangaré qui a été excellent aujourd'hui.
Exceptionnel.
Sangaré, très très bon. Alors il faut pas qu'il joue long pour l'instant, faut qu'il joue en cours, parce que long, il a perdu un sac de ballons, mais franchement il a récupéré beaucoup de ballons, il est intéressant. T'as moi ce jeune Bermond qui était prêté l'année dernière en Ligue 2 Annecy, qui est excellent. Moi je le trouve vraiment très très bon, joueur formé au club. On sait quand même que même si tu parlais de la réserve de Lens qui sont descendus en R1, qui ont du coup pas été inscrits pour la R1, ça pour le coup c'est pas un super truc pour le Racing Club de Lens, mais en tout cas il y a quand même de la qualité. Certes c'est jeune, certes ils leur font un attaquant, mais ils ont encore une défense avec un Udol qui je trouve a été très bon aujourd'hui. Bon, Sarr c'est pas mon préféré, mais c'est un gars qui est assez pro, et Gradit on sait ce qu'il vaut. Donc pour l'instant il y a quand même encore de la qualité dans cette équipe, et s'ils trouvent l'attaquant qu'il leur faut, là je pense qu'ils pourront faire une belle saison.
Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous, supporter lensois. On rappelle Lens compte 6 points après 3 journées. Le prochain rendez-vous, ça sera sur la pelouse du PSG. Messieurs, des déclarations choc. Kenny Lala, le Brestois sur Ligue 1 Plus, a les boules. Il nous dit, c'est un scénario qui fait mal. On est dans l'incompréhension parce qu'on a fait une réunion il n'y a pas longtemps sur la règle du dernier défenseur. On est 3 dans le but. On sait qu'il y a faute, mais il ne donne pas d'explication. L'arbitre, avec tout le respect, nous traite comme des chiens. C'est comme ça. Là, quand tu as des tels propos envers le corps arbitral, il va y avoir sanction là, non ?
Bah, tout dépend. Je pense que les propos ont été enregistrés maintenant.
Ah bah oui, ils sont passés à la télé de Ligue 1 Plus.
Les propos entre l'arbitre, quand il dit il nous traite comme des chiens, c'est entre l'arbitre et les joueurs. Il y a eu certainement des paroles aussi qui ont été.
Non, c'est plus par rapport à la décision arbitrale.
C'est juste ça ?
Moi, je trouve qu'il a des propos un peu trop forts. Par contre. Je suis plutôt du genre à dire que les arbitres, c'est très très compliqué leur boulot, qu'on a besoin d'eux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a un truc qui est très frustrant, c'est que les arbitres, pendant la trêve, ils passent dans les clubs. Pas tous, mais il y a un arbitre en général du coin qui passe, qui t'explique les nouvelles règles. Et là, il dit que lui a été expliqué cette règle du dernier défenseur. Moi, le carton rouge, je le trouve sévère. Et en plus, carton rouge et pénalty, pour moi, le pénalty...
C'est la double peine qui est...
Je demande à revoir. Mais à partir du moment où tu donnes le pénalty... Tu peux donner un carton jaune au gardien, parce que c'est pas un acte violent.
Non.
Certes, il est en retard, donc tu peux donner carton rouge si tu te dis ah c'est à l'extérieur, il annule une occasion et en plus il y a pas pénalty. Mais là, du coup, il y a pénalty et carton rouge.
D'autant
donc,
plus en fait, que la course du joueur, elle va pas vers le but.
Ouais,
elle va en 6 mètres. Ouais.
Pour moi, ça va en 6 mètres.
Exactement.
Bon, le gardien est en retard, il fait faute. Mais moi, je peux comprendre Kenny Lala si en plus il dit, ça reste à vérifier, qu'il y a eu des directives, que pénalty, carton jaune, ou alors carton rouge, coup franc. Ça, je peux le comprendre. Parce que quand c'est à la limite de la surface, c'est souvent ça. Donc, je peux comprendre leur frustration. Après, faut toujours faire attention sur les mots qui sont employés.
Oui, Kenny Lalade, frustré, il le dit, hein, c'est frustrant. On a l'impression de jouer à 12 contre 11. Mais c'est le football. On a fait des erreurs aussi. C'est la manière dont il nous parle. Donc, il parle du corps arbitral.
Tu vois?
Les gestes qu'ils nous font. Je n'accepterai pas qu'on me prenne moi ou mes coéquipiers pour des chiens. Donc, ce sont des propos forts.
La manière dont
la
il nous parle. Tu vois, c'est sur des propos. Il y a eu des propos qui ont été tenus, les gestes qui ont été faits. C'est une attitude, une attitude arbitrale que lui... Je pense qu'il va y avoir ça, tout ça, ça va être examiné.
Enfin, après, face au corps arbitral, t'es jamais gagnant quand t'es joueur.
C'est sûr. Et puis il y a aussi une chose où il faut être très honnête quand t'es joueur, c'est que toi aussi, comment tu parles aux arbitres, c'est souvent.
Ça va dans les deux sens.
C'est souvent inapproprié. Donc après, voilà.
C'est souvent les joueurs qui sont quand même plus virulents que les arbitres.